Oui, mais bien regarder Interville. Non, bon, on alternait.
On peut regarder les deux, oui.
On peut faire les deux. Bon, on a rarement vu Solzhenitsyn et Duras déguisés en vachette, mais... Bernard Pivot, c'était apostrophe, cette émission qui sentait le tabac froid et le whisky, comme Elisabeth Lévy au réveil. Non, mais j'ai dormi avec elle après le dîner du CRIF.
Moi, je la croise au marché.
Oui. Alors, on m'a soufflé hier soir une citation de Bernard Pivot qui disait de votre papa, un homme de bonne volonté, mais toujours en colère. Et c'est formidable, apostrophe, avec votre papa, avec BHL, l'excellent BHL. À l'époque, il y avait une philosophie très capillaire. C'était des philosophes Jean-Louis David. Alors, Solzhenitsyn venait parler du goulag. Bukowski arrivait Yves mort sur le plateau. Cavana insultait Bukowski. Nabokov, il présentait son roman Lolita en dissimulant son whisky dans une tasse à thé. C'était pas chiant à l'époque, Léa Aurédi. Voilà. Et Gabriel Mazneff sortait son zigouigui, puis collait les pages de Lolita avant d'offrir l'exemplaire à une jeune fille dans le public sur qui Bukowski venait de vomir. Ah, c'était une autre époque.
De Philippe Cabrévi, on vous retrouve à 8h40. Merci d'être resté avec nous, Raphaël Luxpan.
Merci beaucoup.
Bonne journée et bon travail. RTL, il est 8h.
RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, l'écart de prix se creuse à nouveau entre l'essence et le diesel.
10 euros de plus pour un plein de 60 litres alors que les prix étaient identiques il y a encore 3 mois quasiment. Vous allez comprendre pourquoi, c'est à cause du printemps, figurez-vous. En tout cas, il y aura du monde sur les routes ce soir parce que les Français vont prendre l'air. Les chiffres du tourisme sont très bons en l'occurrence en ce début d'année. Dans ce journal également, Israël a pris le contrôle ce matin du point de passage entre Rafah et les Égypte, on verra ce que ça veut dire. Le deuxième jour de la visite du président chinois après l'Elysée, les Pyrénées, et le PSG au pied du mur, mais visiblement très serein et très confiant même avant d'accueillir Dortmund ce soir au parc.
À 8h20, nous reviendrons sur la disparition de Bernard Pivot, l'homme qui nous a tant fait aimer les livres, dans ce studio, l'un de ses amis, l'écrivain Pierre Assouline.
Et justement, juste avant le surf de l'info, Cyprien, vous surfez ce matin avec Bernard Pivot.
Oui, et les séquences cultes dont parlait Philippe à l'instant, ben on va les écouter.
RTL Matin.
Vous aurez le temps de faire les comptes ce soir dans les bouchons. Bison futé, voie rouge, comme on dit, dans le sens des départs. Le pic de circulation est attendu vers 18h pour le début donc du pont du 8 mai et de l'Ascension. Et on a voulu sur RTL ce matin faire le point sur le prix des carburants. Il y a 3 mois, je vous le disais en titre, le diesel et l'essence étaient quasiment à des tarifs identiques. Bonjour Christophe Bourroux.
Bonjour.
Mais là, l'écart s'est à nouveau beaucoup creusé.
Oui, puisque le litre du diesel a baissé de 1,2 centimes. On le trouve désormais à 1,73€ en moyenne. Il faut remonter à la mi-janvier pour observer un prix aussi bas, alors que le samplon 95 E10 lui est resté quasi stable à 1,90€. Et au final, 17 centimes d'écart entre les deux carburants, soit 10 euros de différence pour un plein de 60 litres.
Et alors, l'explication est étonnante, en tout cas peut paraître étonnante, c'est à cause du printemps.
Ah oui, alors d'abord, le diesel étant utilisé pour le chauffage au fioul, la demande est plus importante en hiver. Et donc, mécaniquement, quand le printemps arrive, eh bien, les prix se détendent. Et puis, vous avez dans le même temps, une demande mondiale d'essence qui repart en flèche. Cela correspond à, en réalité, à ce qu'on appelle la driving season aux États-Unis. Les Américains sont plus nombreux à partir en week-end au volant de voitures roulant à l'écrasante majorité au samplon, ce qui crée un pic de consommation et tire les prix à la hausse.
Incroyable, à cause des beaux jours donc. Alors vous, quel spécialiste auto sur RTL, ce prix toujours compétitif finalement du diesel, ça ne change pas. Est-ce que ça a une conséquence sur les ventes?
Alors déjà un signe, en Europe, les ventes de diesel sont repassées devant les ventes d'électrique en début d'année. Et en France, c'est surtout le marché de l'occasion qui risque d'être impacté. Il y a beaucoup d'offres en ce moment, donc des prix qui baissent, avec à la clé une consommation pour le diesel inférieure d'environ 15% par rapport à l'essence.
Merci beaucoup Christophe Bourroux. Le gasoil moins cher, est-ce que ça vous incite à repasser au diesel? Eh bien, c'est la question du jour sur RTL. Et vous êtes 50% à dire oui hein, sur le site ou sur l'application RTL. 37% à dire non. Vous nous appelez évidemment au 3210 si vous souhaitez réagir à ce sujet. On vous rappelle le rendez-vous comme tous les jours. Les auditeurs ont la parole à partir de 13h avec Éric Brunet.
Et c'est donc le début du pont du 8 mai ce soir.
Oui, et s'il y a beaucoup de monde sur les routes, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de monde, et ça c'est une bonne nouvelle, dans les campings ou dans les hôtels de France. L'année touristique démarre très bien, Nathan Bocard, après déjà une très bonne année en 2023 selon les derniers chiffres que vous avez.
Oui, avec 100 millions de touristes l'an dernier, la France reste la première destination au monde. Et l'année 2024, pour l'instant, se passe plutôt bien. Pendant les vacances d'hiver, par exemple, les hébergements à la montagne enregistraient un taux d'occupation de 83%. C'est 3% de plus que l'an dernier. Une bonne dynamique qui se confirme pour les longs week-ends et les ponts d'avril et mai. Le taux d'occupation est en hausse de 8 à 12%. Et ça n'est que le début, puisque tous les regards sont désormais tournés, bien sûr, vers les Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec déjà un indicateur, le taux d'occupation des hôtels parisiens pendant les Jeux, il est à date de 65%, c'est 40 points de plus que l'été dernier à la même période. Mais prudence, disent les professionnels, les visiteurs s'y sont pris bien à l'avance. Et ce chiffre, il risque de ne plus beaucoup augmenter. Une inquiétude qui rejoint celle des transports ou des livraisons pendant les Jeux. Pour y répondre, une deuxième réunion aura lieu tout à l'heure, juste après le comité interministériel.
Merci beaucoup Nathan Bocard. Marseille aussi fait le plein. Plus une chambre libre autour du Vieux-Port, alors que la flamme olympique arrive demain dans la cité phocéenne. Le Bellem approche. 150 000 personnes devraient se masser pour l'arrivée donc de ce 3 mâts parti de Grèce il y a 12 jours. Il va parader d'abord en rade de Marseille à partir de la fin de matinée. À partir de 17h30, il y aura la fête absolument partout sur le Vieux-Port. Florent Manaudou récupère la flamme sur la terre ferme en tout début de soirée et vous le vivrez sur RTL en direct. Journée spéciale et édition spéciale donc dès 18h dans RTL. Bonsoir.
8h05 sur RTL, c'est l'autre grand titre. Ce matin, Israël a bombardé cette nuit la ville de Rafah.
Oui, bombardement qualifié d'intense depuis quelques heures. On rappelle que c'est dans cette ville de Rafah du sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, que plus d'un million de Palestiniens se sont réfugiés. Ils sont aujourd'hui 4 fois plus nombreux qu'avant la guerre. On est avec vous, Sophie Jousselin, à nouveau, et on apprend il y a moins d'une heure qu'Israël a donc pris le contrôle du point de passage avec l'Égypte.
Oui, selon la radio de l'armée, les forces israéliennes ont pris le contrôle du point de passage de Rafah, du moins de la partie contrôlée par les Palestiniens, l'autre partie étant sous le contrôle de l'Égypte. Le poste frontière de Rafah, c'est l'unique passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. Plus tôt dans la nuit, des chars israéliens avaient été vus près du poste frontière, attestant de la progression des troupes. Le sud de l'enclave palestinienne, vous l'avez dit, a été sous le feu israélien toute la nuit. Plusieurs témoins parlent de bombardements intenses, de tirs d'artillerie et de frappes aériennes. Et hier, Israël avait commencé l'évacuation d'environ 100 000 personnes vivant dans l'est de Rafah. L'armée israélienne poursuit son objectif, anéantir le Hamas au pouvoir à Gaza. Benjamin Netanyahou l'a répété, il veut détruire les 4 derniers bataillons du Hamas à Rafah.
Donc bombardement intense, alors qu'hier, le Hamas indique qu'il a proposé ou accepté une nouvelle proposition de trêve. Mais de quoi parle-t-on ?
Alors, c'est un accord qui prévoit la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, le retour des personnes déplacées, le retrait total d'Israël de la bande de Gaza et un cessez-le-feu permanent. Le bureau de Benjamin Netanyahou a fait savoir que ce plan n'était pas acceptable en l'état. Depuis le début des négociations, Israël ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu permanent. De nouvelles négociations doivent commencer aujourd'hui. Une délégation israélienne et une autre du Qatar doivent se retrouver au Caire pour essayer d'aboutir à un accord.
Merci beaucoup Sophie Jousselin. Hier, le président américain Joe Biden a redit à Benjamin Netanyahou son opposition à une offensive terrestre sur Rafah. Et puis le secrétaire général de l'ONU redit lui qu'une invasion de Rafah, je cite, serait intolérable. Depuis le déclenchement de cette guerre provoquée, on le rappelle, par les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas, le nombre d'actes antisémites a beaucoup augmenté en France. 366 faits antisémites enregistrés sur les 3 premiers mois de l'année. C'est 3 fois plus que sur la même période l'an dernier. Une déferlante antisémite, voilà ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal lors du dîner au CRIF hier soir qui représente donc les institutions juives de France.
RTL, 8h08, au deuxième jour de la visite de Xi Jinping, le président chinois va prendre l'air.
Oui, l'air des Pyrénées. Volonté d'Emmanuel Macron d'installer une relation plus personnelle avec le président chinois. Il l'emmène donc à la Mongie, endroit cher à son cœur, au pied du Tourmalet, où il passait ses vacances avec sa grand-mère. Et ils vont même déjeuner à l'étape du Berger, qui est un peu la cantine d'Emmanuel Macron quand il est là-bas, Patrick Tégéraud.
C'est un restaurant d'altitude, l'étape du Berger. C'est le père de Françoise Galaï qui l'a créé. Et parmi ses premiers clients, il y avait les grands-parents d'Emmanuel Macron.
Alors papa a connu le président adolescent. Moi-même, je l'ai connu aussi, il devait avoir 15, 16 ans, quand il venait pour skier à la Mongie, puisque sa grand-mère est originaire de Bagnères-de-Bigorre.
Alors dès que c'est possible, il passe voir Françoise et Eric qui ont repris le restaurant.
D'autant plus que c'est un excellent skieur, et donc quand il a l'opportunité l'hiver, il vient nous faire un petit coucou et faire 4 virages.
À l'état du Berger, les présidents vont manger local.
Ils sont là pour ça aussi, puisque mon mari est avant tout éleveur de porc noir, d'agneau. Il va déguster nos produits, notre soupe locale qui est la garbure. Au niveau culinaire, c'est pas forcément très compliqué. Ce qui est un peu plus compliqué, on va dire, c'est tout ce qui est mis en place et sécurité.
D'autant qu'il va falloir se réconforter. La météo prévoit à peine quelques degrés au-dessus de zéro et des bourrasques de neige fondue. La gastronomie devra compenser l'absence de paysage.
Dommage pour la carte postale.
Oui.
Merci Patrick Tégéraud. Et hier, comme attendu, les discussions ont porté sur le commerce. La présidente de la Commission européenne a rappelé qu'elle exigeait une concurrence équitable, alors que l'UE reproche à la Chine de subventionner massivement son économie pour proposer des prix défiant toute concurrence, notamment sur le marché des voitures électriques. Une bonne nouvelle en revanche pour nos producteurs de cognac qui ne vont pas se voir infliger de taxes douanières supplémentaires pour la Chine.
On passe au foot avec le PSG sous pression, mais confiant.
Oui, c'est l'événement du jour évidemment. PSG Dortmund au Parc des Princes, coup d'envoi 21h et soirée spéciale dès 20h RTL Foot autour d'Éric Silvestro. Avec vous au stade, Philippe Sanfourche et aux commentaires. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, les Parisiens ont perdu 1-0 à l'aller, donc là pas de calcul, hein.
C'est ça, si Paris veut s'offrir la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire, plus question de calculer. L'idée, c'est vraiment de rééditer la performance livrée à Barcelone il y a exactement 3 semaines en quart de finale. Remonter un but de retard, ils savent faire, ils vont le refaire. Marquinhos, le capitaine, en est convaincu.
Il y a toute une expérience, je pense que le coach aussi s'est très bien préparé à ce genre de confrontation. Une demi-finale de Champions League, c'est pas tous les ans, je suis ici, ça fait 11 ans, c'est ma 3e fois. Et c'est pour ça, il faut des bonnes énergies pour qu'on puisse faire un très bon match.
Marquinhos, orphelin de son compère de défense Lucas Hernandez, blessé au match aller. Le portugais Danilo et le brésilien Beraldo seront en balance jusqu'au dernier moment pour assurer la relève.
Alors Philippe, on vient d'entendre Marquinhos. Ils ont l'air assez confiants les Parisiens.
Oui, malgré cette blessure d'un joueur cadre, en dépit aussi d'un parcours chaotique depuis le début de saison, le PSG a tout de même perdu plus d'un match sur 3 dans cette compétition. Il règne une forme de sérénité qui s'appuie sur un travail collectif de fond mené par l'entraîneur Luis Enrique. Une cohésion nouvelle aussi avec les supporters, les ultras, qui ont promis d'animer le Parc des Princes ce soir, peut-être comme jamais.
Et puis alors tout le stade, on l'imagine, va attendre aussi un gros match de Mbappé.
Ah, ce sera, quoi qu'il arrive, maintenant son dernier match de Ligue des Champions avec Paris au Parc des Princes. Lui qui a inscrit 8 buts dans la compétition depuis le début de saison, co-meilleur buteur de l'épreuve avec Harry Kane du Bayern Munich. Alors il a été décevant au match aller, autre parallèle avec Barcelone en quart de finale. On connaît la suite, un doublé en Catalogne. Réagir pour marquer l'histoire, ce sera la mission de Kylian Mbappé ce soir.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche. À ce soir au stade, vous serez avec Nicolas Georgiou aux commentaires. RTL Foot, spécial Ligue des Champions des 20h. Coup d'envoi à 21h. En Ligue 1, hier soir, Lyon a battu Lille 4-3 alors que les Lillois menaient 2-0 à la mi-temps. Et puis Victor Wembanyama a été sacré rookie de l'année, ça veut dire débutant de l'année en NBA, donc championnat de basket américain, meilleur joueur pour une première saison, jamais un Français ne l'avait fait, alors que son équipe, les Spurs, n'est pas en grande forme, mais lui fait un très bon début de saison.
Olivier voilà. Bonne, proposez le journal de 8h sur RTL, il est 8h12. Marina Giraudeau, parlons de notre météo. Alors, côté température, ça sera pas trop mal, on le rappelle, au nord. Hein.
Oui, au nord, on sera plutôt dans les moyennes de saison, puisqu'il fera 20 degrés à Paris cet après-midi, 20 au Mans, à Rennes ou encore à Nantes. On aura 19 à Lille, 19 à Metz et à Nancy. C'est au sud où ce sera un peu frais pour la saison encore, parce que c'est là où on aura le plus d'averses et de nuages. On attend 16 degrés seulement à Agen et à Biarritz cet après-midi, ainsi qu'à Toulouse. Vous aurez aussi 16 à Lyon et 15 à Clermont-Ferrand.
Côté ciel, l'amélioration, c'est pour tout de suite?
Non. Aujourd'hui encore, on a encore des averses. Là, ça va vraiment venir à partir de demain par le nord-ouest. On a un ciel bien nuageux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où il y a quelques éclaircies, notamment au nord, là, de Paris, aux Ardennes. Il y a quand même quelques éclaircies, mais enfin, il y a aussi des passages nuageux. Et les averses, c'est plus au sud. On en a beaucoup là en ce moment, au sud de la Loire jusqu'aux Alpes. Ça restera comme ça, perturbé du sud de la Loire en allant vers le massif central et les Alpes, avec parfois même des orages cet après-midi. Toujours de la neige en montagne pour les Pyrénées et les Alpes. Il y a juste vraiment vers la Méditerranée où il y aura un petit peu plus de soleil, mais pas partout, de façon localisée. Et sur le tiers nord, il y aura un petit mieux dans le sens où il y aura moins d'averses qu'au sud. Quelques éclaircies, un peu plus nombreuses quand même en fin de journée pour la Bretagne et les côtes de la Manche.
Et vous nous donnez rendez-vous à 8h30 pour une météo à 7 jours.
Avec du soleil.
Tout à l'heure. Ah, très bien.
RTL vous explique.
Avant cela, comme chaque matin, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité. Et ce matin, RTL vous explique Rafah. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour, bonjour à tous.
On en parle tous les jours, ou presque plus encore, bien sûr, ces dernières heures avec ces frappes qui ont eu lieu cette nuit. On le disait à l'instant dans le journal, l'armée israélienne annonce avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et à l'instant, l'armée israélienne assure opérer dans certains secteurs de l'est de la ville. Rappelons d'abord, Émilie, où se trouve Rafah ?
Alors, la ville de Rafah se situe à l'extrême sud de la bande de Gaza, tout près des frontières égyptiennes et israéliennes, et donc tout près des deux seuls points de passage par où entre l'aide humanitaire. C'est aujourd'hui une ville stratégique où les déplacés du nord de Gaza ont trouvé refuge après avoir fui les combats. Sa population a été multipliée par 6 en quelques semaines, 250 000 habitants avant la guerre, 1,5 million aujourd'hui, et des tentes à perte de vue sur 14 kilomètres.
Deuxième question, Émilie, pourquoi viser Rafah maintenant ?
Parce que le commandement israélien affirme que 4 bataillons du Hamas sont encore cachés dans Rafah et peut-être même le chef du Hamas à Gaza, Yahya al-Sinwar. Pour Benjamin Netanyahou, pas question d'arrêter cette guerre avant d'avoir détruit entièrement le Hamas. Voilà pourquoi cette offensive est imminente.
L'opération militaire est vue d'un mauvais œil, et pas qu'un peu, hein, si j'ose dire, à la fois par les Américains et par les Occidentaux.
Oui, car tout le monde s'inquiète du bilan humain d'une telle offensive. On l'a dit, 1,5 million de personnes vivent désormais à Rafah, la grande majorité dans des conditions très difficiles, dans des tentes, sur des bouts de trottoirs, sur des ronds-points ou sur la plage. Rafah est aussi devenu, au fil des mois, le centre névralgique de la bande de Gaza. C'est là où sont installés les journalistes palestiniens, les organisations humanitaires, les agences de l'ONU. C'est aussi là que transitent tous les camions d'aide humanitaire. Une opération terrestre serait catastrophique, préviennent les ONG.
100 000 personnes, Émilie, ont été évacuées hier. Un ordre d'évacuation. Où peuvent aller ces personnes ?
C'est bien là toute la question. L'armée israélienne leur demande d'aller vers la plage, mais c'est une zone déjà saturée de monde et sans infrastructure. L'UNICEF rappelle qu'il n'y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza et que 600 000 enfants sont réfugiés à Rafah. Et puis surtout, les Gazaouis ne peuvent pas sortir de la bande de Gaza. Ils sont soumis à un blocus total imposé par Israël et suivi par l'Égypte.
Merci beaucoup Émilie. Émilie Beaujard pour toutes ces explications.
Il est 8h16. Bonjour Cyprien Signy.
Bonjour à tous.
Alors vous sortez ce matin avec... pardonnez-moi.
Oui, le petit jingle.
Respectons notre jingle. Donc vous sortez ce matin avec les émissions de Bernard Pivot, apostrophe bouillon de culture, et leurs séquences, pardonnez-moi, devenues culte.
Oui, entre les volutes de fumée et les bouteilles d'alcool, en direct à la télé, Bukowski, ivre mort, se faisait tancer le 22 septembre 1978.
Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez trop bu là pendant l'émission et maintenant vous n'êtes plus capable de tenir. Finalement, vous n'êtes pas si
mais
fort
non,
que
mais
ça.
Si.
Comme on dit dans votre langue, shut up.
Shut up. Oh. Bukowski, ta gueule, tu nous entêtes.
Voilà, ciao. Au revoir. Finalement, il tient pas tellement la bouteille, c'était comme un américain.
Un Bernard Pivot qui savait rester calme en toutes circonstances, comme ce 15 mars 92 quand un étudiant débarque sur le plateau.
Je suis étudiant, je viens parler du mouvement étudiant.
Excusez-moi, mais c'est pas très poli d'interrompre.
Un étudiant qui menace de se suicider en direct.
Ce qui va se passer, c'est que c'est évident, c'est que la direction va donner l'ordre de couper l'antenne.
Ben, si elle coupe l'antenne, moi je me le plante dans le ventre.
Mais non, faites pas ça, écoutez.
Prenez le risque et vous allez voir.
Mais non, mon vieux, faites pas ça. Et ça, c'est bien terminé. Autre clash mémorable. Gainsbourg face à Guy Béard. Car dans apostrophe, ben, les invités, ils s'apostrophent.
Un art majeur devant une initiation. Pas un art mineur, les conneries que nous faisons, nous.
Pour le surréalisme, qui vous avez influencé ?
Un art mineur, une chanson.
Mais si, mon petit gars. Mais qu'est-ce qu'il y a, le connard, là ?
Ah non, c'est Béard qui te parle. Pourquoi est-ce que c'est mineur, une chanson ? Ça rencontre
des
gens ?
Oui, c'est mineur. C'est mineur.
Mais non, il n'y a rien de mineur.
Tu n'as pas besoin d'initiation.
Mais tu as besoin
pour
de
la chanson.
La télé en roue libre, avec des duels à fleurer moucheté également, comme celui opposant Roger Perfitte à Jean d'Ormesson.
J'ai interrogé sur votre activité à l'UNESCO là ces jours-ci, et on m'a dit que votre bureau à l'UNESCO était toujours vide, n'est-ce pas ? Que la revue Diogène que vous publiez, on n'en a jamais vu un exemplaire.
Vous n'avez rien à répondre ?
Oh, non, franchement, rien du tout.
Ouais. Mouché le genre d'eau, mais toujours élégant, à la différence du jeune Daniel Cohn-Bendit, complètement affalé, ventripotent dans son fauteuil, expliquant...
Les drogues douces, on défend ça, les petits gâteaux aux haches,
fantastique. D'ailleurs, j'en ai pris un ce soir. Fantastique, je vous dis. Moi, je me sens en forme, décontracté.
Une parole complètement sans filtre dans cette émission. Un peu trop sans filtre, même, en ce jour de mars 1990.
Gabriel Matzneff, qui est en face de vous, s'il y a un vrai, véritable professeur quand même d'éducation sexuelle, c'est quand même Gabriel Matzneff.
Matzneff, interpellé par l'écrivaine canadienne Denise Bombardier.
Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Parce que ce que nous raconte M. Matzneff dans un livre qui est très ennuyeux...
Non, madame, ne devenez pas agressive, n'est-ce pas? Devenir agressive comme ça dans une...
M. Matzneff nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans.
Bernard Pivot, qui est resté spectateur de la séquence et qui confiera plus tard...
Le journaliste et écrivain a exprimé ses regrets dans la presse, estimant n'avoir pas eu les mots qu'il fallait, tout en plaidant le ton d'une époque.
Une époque et une façon de faire de la télé de laquelle on s'est encore un peu plus éloigné hier.
Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir RTL, bonsoir, c'est dès 18h.
La suite de la visite de Xi Jinping, l'événement PSG Dortmund et puis un tour d'Europe à vélo pour rencontrer nos voisins avant les élections.
Ouais, c'est une bonne idée.
Oui, hein. De l'info et de la curiosité.
Et à 8h20, Pivot, Parasouline, ce sera dans ce studio, l'un de ses amis, à tout de suite.
RTL. À tous ceux qui préfèrent les tortillas aux simples chips, à ceux qui préfèrent le guacamole à la rillette, et à ceux qui préfèrent les faritas au sandwich. Intermarché offre 34% en avantage carte sur le fût de 5 litres de bière aromatisée originale Desperados, soit 13,53€, avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 mai, 20,50€ prix payé, 4,10€ le litre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Ouh ! Ça, c'est Matt, qui vient de découvrir l'offre quantité limitée Bricoman. Ouais, ouais, il est vraiment content de voir que le pack WC Modena sans bride, abattant frein de chute, est à seulement 89€. Et c'est qu'il a raison, Matt, de vite se mettre en route vers son magasin dépôt Bricoman. Alors vous aussi, faites vite. Bricoman, pro avec un grand M. Offre limitée à 2016 pièces à partir du 7 mai dans les magasins dépôt Bricoman jusqu'à épuisement des stocks.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La vie claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30€ d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La vie claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
RTL Matin, 7h, 9h.
Il est 8h21. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour Yves Calvi.
Merci de nous rejoindre dans la matinale d'RTL que vous connaissez si bien. C'est le membre de l'Académie Goncourt, mais aussi l'ami de Bernard Pivot que j'accueille ce matin. Nos confrères du Parisien ont choisi une très belle photo et un titre qui résume tout. L'homme qui nous a fait aimer les livres. Vous êtes d'accord?
Ah oui, totalement, oui. C'est tout à fait ça. C'est mieux que le roi lire et autres autre lieux communs, parce qu'il a fait aimer les livres aux Français. Ouais. Bon, c'est une nation littéraire, hein, la France, donc le terrain était bien préparé. Mais tout de même, il a rendu ça beaucoup plus populaire dans le bon sens du terme.
Qui était Bernard Pivot pour vous? Une référence, un confrère, un ami?
Au départ, c'est un modèle. D'abord, c'était mon patron pendant 10 ans au magazine Lire. Donc c'était mon patron, se vouvoyait, etc. Ensuite, c'était l'homme d'apostrophe, donc il m'invitait très souvent à chacun de mes livres, et notamment pour les biographies. Et puis après, il a quitté Lire et j'ai été son successeur. Il m'a désigné comme son successeur pour diriger le journal. Et puis ensuite, c'est lui, avec d'autres, qui m'a fait rentrer à l'Académie Goncourt. Et là, la première fois que je suis arrivé au restaurant de Rouen, il est venu vers moi, il m'a accueilli et il m'a dit « Maintenant, on se tutoie ». Puisque dans la presse, on vous voit son patron.
Bien sûr.
Et là, c'était fini, on est passé à autre chose. Et là, c'était vraiment un ami jusqu'à la fin.
En 2015, vous avez réalisé un documentaire, les Vendredis d'Apostrophe. Vous avez pioché dans les 723 émissions, les séquences les plus mémorables. Quelle est celle qui vous a, vous, le plus marqué et pourquoi, Pierre Assouline?
C'est difficile, hein, parce que j'ai eu un mal fou à choisir. Franchement, je ne voulais pas demander son avis, parce que je l'ai fait avec lui. Mais il n'a rien choisi. Il a découvert la sélection quand on a enregistré cette émission, qui d'ailleurs va être rediffusée ce soir sur France 2.
Oui.
Et j'ai du mal à vous répondre parce que il y en a beaucoup qui, bon, avec Raymond DeVos par exemple, ça c'était vraiment pivot parce que il adorait la langue française. C'est la passion. On parle toujours de la littérature, mais il n'y a pas que la littérature. Il y a la langue française, et puis il y a les livres. Lire était le magazine de tous les livres, et il y tenait. Il disait toujours, il n'y a pas que la littérature, il n'y a pas que le roman. Et il avait une petite frustration quand je lui ai projeté ce documentaire, oui. Une fois qu'il était terminé.
Pourquoi ?
Il m'a dit, il n'y a pas assez d'historiens. Or, Apostrophe a beaucoup fait pour la Nouvelle Histoire, Georges Duby, et la Durie. Et je lui ai dit, t'as raison, mais on peut pas, il faut développer avec les historiens. Or là, ce sont des pastilles de 2 ou 3 minutes auxquelles je le faisais réagir.
15 ans d'Apostrophe, 10 ans de Bouillon de Culture, 4 ans de Double Jeu, bref, 30 ans de télévision pour imposer le livre et le goût de la lecture. Que vous inspirent ces chiffres en dehors de son incroyable influence ?
Ce n'est pas les chiffres le plus important. Le plus important, c'est la trace. Que ça laisse une trace mnésique dans l'esprit des gens. Vous savez, bon, je l'ai vu pratiquement jusqu'à la fin, on allait au restaurant déjeuner presque tous les mois, et on se baladait donc dans Paris, mais on a aussi beaucoup voyagé ensemble, pour le journalisme notamment, et les gens le reconnaissaient tout de suite, sa popularité était intacte, alors qu'il ne faisait plus de télévision depuis plus de 20 ans. Et les gens venaient vers lui et lui disaient, j'aime beaucoup ce que vous faites. Oh, vos émissions, c'est formidable. Et il se marie. Et après, il me disait, mais ça fait quand même longtemps que j'y suis plus. Et ça continuait. Donc, cette trace, chez beaucoup de Français, c'est resté. Évidemment, c'est générationnel. Chez les jeunes, les plus jeunes, ça paraît difficile. Malgré YouTube. Mais tout de même, cette trace est très, très importante.
Ça, en tant qu'invité, ça se passait comment ? Je n'ai jamais vraiment cru. Alors, à son côté, je dirais, uniquement chaleureux, à ses connaissances, j'en suis sûr, à sa curiosité aussi. Mais voilà, qu'est-ce que c'était d'être sur le plateau de Pivot ? Alors, pour venir vendre son livre.
Il ne faut pas oublier un mot, hein, le travail de sa part. Travail énorme. C'est-à-dire qu'il préparait ses émissions pour être capable de rebondir avec l'invité sur son livre quand il avait un problème ou une polémique, etc. Ou quand l'invité oubliait un petit peu ce qu'il avait écrit et qu'il le reprenait. Bien sûr.
Oui.
Et, n'est-ce pas, vous en savez quelque chose. Et qu'il le reprenait en disant non, mais page 28, vous n'avez pas écrit ça. Vous avez écrit autre chose. Eh bien, pour être capable de ça, il fallait avoir passé la semaine à se consacrer à 5 livres, plus plein d'autres choses, mais à 5 livres et les avoir vraiment épluchés. Et ça, c'est un travail énorme, on le dit pas assez.
L'intelligence, la curiosité, sans doute aussi une capacité à être très sérieux, sans se prendre au sérieux. En tout cas, il nous accompagnait, il nous a donné le goût des livres. L'humour aussi, hein, c'était quand même très présent dans ses émissions, on avait le droit de rire en littérature.
Bien sûr, et vous savez, on dit toujours c'est une émission littéraire. C'est vrai. Mais c'est avant tout une émission de débat d'idées.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que les gens se parlent. Ce qui n'a pas du tout été le cas par la suite avec, par exemple, La Grande Librairie ou d'autres émissions.
Oui. Où on ne présente pas que des livres, on crée un thème autour dans une émission. Voilà. On parle de quelque chose, c'est ça ?
Oui, quand il invite Solzhenitsyn, il invite en face Jean-Daniel, Jean d'Ormesson, ça devient un débat d'idées. Il y a beaucoup d'événements politiques qui sont passés par Apostrophe, soit qu'on ne mesure pas encore l'importance d'Apostrophe et aussi de Bouillon de Culture dans l'histoire du débat d'idées en France à la fin du XXe siècle. Si on veut retracer les débats intellectuels, il faut passer par là. Malgré le mépris affiché après Apostrophe et après Bouillon de Culture par certains milieux intellectuels ou journalistiques en disant oui, c'est une émission de variété. Variété intellectuelle, mais une émission de variété.
Oui.
Ce qui est un grand mépris. Alors que des
choses. J'étais pas mécontent non plus de venir vendre leurs livres.
C'est pour ça qu'ils ont attendu que l'émission n'existe plus pour dire ça.
Son mot préféré, nous disait notre spécialiste et ami Bernard Lehu, c'était le mot gourmandise. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire?
Ben, c'est le mot qui le résume le mieux pour moi, parce que c'est la gourmandise, évidemment, par rapport au vin, par rapport au mets, mais par rapport aussi à la culture. Mais, pour moi, il y a un autre mot. Et il y tenait beaucoup, parce qu'on était d'accord là-dessus, il disait toujours, il n'y a pas de journaliste s'il n'y a pas de curiosité. Et la curiosité, c'est ce qui le définit de son plus jeune âge, dès qu'il débarque au Figaro, en arrivant de Lyon, jusqu'à presque la toute fin, la curiosité pour les gens, pour les personnes, les individus, pour les livres, pour les films, pour le théâtre, pour la musique, pour l'opéra, il n'arrêtait pas.
Son talent était de mettre en valeur et d'en trouver d'ailleurs du talent chez les auteurs. Est-ce que c'était une manière de se cacher, peut-être aussi, presque de se protéger ? Je me suis posé la question parfois.
Vous savez, il n'avait pas à se protéger. Hein. Vous savez, il était sur le plateau Et il était chez Drouan, à l'Académie Goncourt, tel qu'il était...
Comme dans la vie ?
Dans la vie, tout simplement, naturel. Se cacher, non, il songeait pas à se cacher, il sortait tous les jours jusqu'à la fin, et quand il était abordé, il répondait toujours avec beaucoup de gentillesse aux gens.
Quel hommage peut-on imaginer, ou qu'aurait-il aimé qu'on dise de lui aujourd'hui ?
Je crois savoir ce qu'il n'aurait pas aimé qu'on fasse, c'est le genre hommage national, etc. Faut pas oublier une chose, hein. Pivot, c'est un indépendant absolu. Grâce à ça, l'Académie Goncourt a pu se protéger derrière son indépendance et l'être également, par rapport aux pressions, etc. Oui. C'est quelqu'un qui m'a toujours dit... il faut jamais accepter les décorations. Il n'avait pas la Légion d'honneur, l'Ordre du Mérite et tout ça. Il disait, un journaliste n'a pas à accepter les décorations d'un gouvernement. Il faut rester indépendant. Et ça, c'est important. On l'a proposé 10 fois à l'Académie française, il a toujours refusé. Au moins, à l'Académie Goncourt, on fait des choses, etc. Mais les honneurs, les grandeurs d'établissement, il aurait tout eu. Et il disait très sincèrement, le plus incroyable, c'est que si je me promène sur les Champs-Élysées avec Claude Lévi-Strauss, tout le monde vient me demander des autographes, mais à lui, on ne lui demande rien. Alors c'est lui, le grand homme.
Merci beaucoup, Pierre Assouline. Merci d'avoir pris la parole sur RTL pour évoquer votre ami Bernard Pivot, avec à la fois affection et tendresse. Très bonne journée à vous.
Merci.
L'essentiel de l'actualité dans un tout petit instant. Marina Giraudot, on va parler du programme météo de ces prochains jours. Vous nous avez promis un beau grand week-end de l'ascension, ouais. Ça se confirme ?
On peut sortir la crème solaire, oui.
Waouh !
RTL. Grand frais.
Bonjour, c'est le traiteur. Alors, pour votre cérémonie de demain, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses myrtilles bien parfumées, comme je les aime. Bon, en commençant à préparer les toasts maintenant, ça devrait le faire pour vos 300 invités. C'est bien ça, hein ?
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à jeudi, les myrtilles sont à 80 centimes les 100 grammes. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
Soit 7,99€ le kilo. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste et horaires sur grandfrais.com.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pensez à covoiturer.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Il reste une part du gâteau ?
De pizza patron. Dès demain, avec l'appli Lidl Plus, la pâte à pizza de 260 grammes est à 1,11€ et la deuxième à moins 50%.
1,66€ les deux pâtes à pizza ? C'est royal ?
Royal, napolitaine ou même ananas patron.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 4,27€ le kilo pour une pâte, 3,19€ le kilo pour deux. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Alors, en ce mardi, je tiens à vous le dire, si vous aimez le rock'n'roll, vous allez être servi. On va voir énormément de cas, beaucoup de bonne humeur bien évidemment, mais je peux d'ores et déjà vous le dire à l'avance, un auditeur un peu énervé qui va me dire à un moment donné...
Quand on regarde dans la culotte de quelqu'un, faudrait déjà voir si vous avez du caca.
Alors, est-ce vrai ou faux ? Bah, vous en saurez plus tout à l'heure, à 9h sur RTL.
RTL Matin.
Bientôt 8h32 sur RTL. L'essentiel de l'actualité, Sébastien Rouxel.
Et d'abord, cette escapade dans les Pyrénées. Emmanuel Macron emmène aujourd'hui le président chinois Xi Jinping dans le village de la Mongie, où il allait en vacances quand il était enfant. Une façon d'installer un climat plus intime entre les deux chefs d'État. Et ça ne plaît pas du tout à Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS Place Publique pour les Européennes. Il était tout à l'heure l'invité de RTL Matin.
On peut tout à fait recevoir le président chinois en France, mais on ne le traite pas en ami. On ne traite pas en ami le président qui est le principal soutien de la guerre de Vladimir Poutine qui menace l'ensemble du continent européen. Le président qui scelle un traité d'amitié sans limite avec le dictateur russe qui menace notre sécurité.
Sauf que c'est lui qui discute encore avec Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se dit pourquoi pas essayer si ça peut
avec
être un
lui,
lien.
On établit un rapport de force avec lui, mais on ne l'amène pas dans le village de la grand-mère dans les Pyrénées. On ne donne pas une tonalité amicale à cette visite. Ce n'est pas notre ami. L'homme qui déporte les Ouïghours, qui réprime les Hongkongais, qui réprime les Tibétains, n'est pas notre ami.
Raphaël Glucksmann à votre micro, Amandine. Le candidat PS Place Publique qui a un mois des européennes continue de réduire l'écart avec Valérie Ayé, la tête de liste du camp présidentiel. 14% d'intention de vote pour lui, 15% pour elle dans notre dernier sondage Harris Interactive Toluna pour RTL M6 et Challenge. Un petit point d'écart, on est tout juste dans la marge d'erreur. Le Rassemblement National lui reste loin en tête avec 31%.
L'armée israélienne annonce ce matin avoir pris le contrôle du point de passage de Rafah.
Le côté des palestiniens, du moins, de ce point de passage avec l'Égypte. L'armée israélienne a par ailleurs multiplié les frappes cette nuit sur cette ville du sud de Gaza où sont réfugiés 1,5 million de Palestiniens. Le Hamas avait pourtant donné hier soir son feu vert à un accord de cessez-le-feu, accord trop loin des exigences israéliennes, estime Benjamin Netanyahou. Les pourparlers vont se poursuivre aujourd'hui. Depuis 7 mois, cette guerre au Proche-Orient n'a cessé d'alimenter l'antisémitisme chez nous en France. 366 faits recensés au cours du premier trimestre de cette année. C'est 4 fois plus que l'an dernier sur la même période. C'est alarmé hier soir Gabriel Attal.
Si vous prenez votre voiture aujourd'hui, attention, vous risquez de voir rouge.
À cause des bouchons, d'abord. Journée classée rouge dans le sens des départs pour le début de ce week-end prolongé. Et puis, vous allez voir rouge à la pompe. Aussi, si vous roulez à l'essence, 1,90€ en moyenne le litre de sans-plomb 95, c'est 16 centimes de plus que le diesel, alors que les deux carburants se vendaient au même prix en début d'année. Comment expliquer cet écart ? Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières, était l'invité de RTL Petit Matin.
Nous arrivons dans la période où les Américains se déplacent beaucoup plus pour leurs loisirs. On appelle ça la « driving season » en anglais. Cette consommation supplémentaire est telle que ça a même un impact sur le marché européen. Donc les cotations européennes ont monté de 9 centimes de plus que pour le gazoil depuis quelques semaines.
Olivier Gantois avec Jérôme Florin. L'autre explication, c'est qu'avec les beaux jours, la demande de fuel baisse, le prix du diesel baisse donc lui aussi. Et pour les supporters parisiens qui seraient coincés dans les bouchons ce soir, pas de panique, vous pourrez suivre en intégralité la demi-finale retour de Ligue des Champions sur RTL. Le PSG doit s'imposer au Parc des Princes après sa défaite 1-0 à Dortmund. Les joueurs sont confiants, à l'image du capitaine Marquinhos au micro de Philippe Sanfourche.
La confiance, je crois qu'il vient de travail pendant toute la saison, dans la préparation, de ce qu'on peut le faire, de ce qu'on est sûr que les supporters vont faire une très belle fête, ils vont nous pousser jusqu'à la fin. Nous, on va se focaliser dans le petit point, dans le petit détail et faire le meilleur match possible. C'est pour ça qu'il y a cette confiance.
Voilà, la confiance du capitaine parisien avant ce PSG Dortmund, coup d'envoi 21h, RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h avec Eric Silvestro.
Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Notre météo à 7 jours, ça y est, on y est arrivé. Mais oui, parce que là on est curieux quand même, on se dit, est-ce qu'il va enfin se passer quelque chose?
Mais oui, en plus avec ce grand
fond. Oh là là, Marina Giraudeau.
Ça tombe parfaitement, je pense qu'on sera tous heureux de voir le soleil. Bon, on passe vite sur aujourd'hui, ça change pas de ce qu'on a eu ces derniers jours, des nuages, des averses plus nombreuses sur la moitié sud qui tourneront parfois à l'orage cet après-midi. Et puis des températures entre 15 et 20 degrés, plutôt de saison au nord, mais un peu fraîche au sud, puisque c'est là où on aura le plus d'averses. Demain, ça y est, l'amélioration commence. Elle commence essentiellement par le nord-nord-ouest, c'est-à-dire du nord de la Loire à l'Île-de-France jusqu'au Hauts-de-France. Déjà, sur ce quart nord-nord-ouest, on va retrouver un temps sec et des éclaircies de plus en plus belles au fur et à mesure de la journée. On aura aussi du soleil en Méditerranée, avec du Mistral et de la Tramontane, en revanche. Pour les autres régions, il y aura encore des passages nuageux, il y aura des averses, mais beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui. Et on peut espérer 2-3 éclaircies entre les passages nuageux. Ce sera un mieux progressif. Et jeudi, ça y est, un temps sec, ensoleillé, même chose vendredi, avec des températures qui ne vont cesser de grimper. On aura une moyenne de 23 vendredi sur la moitié nord et de 25 au sud. On ira jusqu'à 28 dans le sud-ouest du pays. Samedi, on garde ce temps sec et ensoleillé. On gagnera encore 1 à 2 degrés. Donc ce sera vraiment la journée la plus douce et la plus ensoleillée samedi. Dimanche, on garde de la chaleur. On perdra peut-être 1 ou 2 degrés, mais ça restera quand même très agréable. Le ciel va un petit peu s'ennuager. On attend des orages, mais plutôt sur les reliefs. Mais si vous n'êtes pas concernés par ces orages, vu les températures, ça restera encore très agréable dimanche. Et je ne vous parle pas du début de semaine prochaine, si je veux rester ami avec vous.
Pour l'instant, j'en reste à rendez-vous. Non, on ne va pas se faire du mal. Rendez-vous jeudi.
Voilà, exactement.
Voilà, pour les éclaircies.
Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Quel est votre choix télé du jour ?
Voilà, Paris Première, Paris brûle-t-il ? 1966, film de René Clément sur la libération de Paris en août 44. Était chaud. Les Parisiens sont toujours occupés, surtout à se baigner dans la Seine. Ce que ne montre pas ce film glorifiant les combattants n'ayant pas résisté qu'à l'eau froide. Une belle exposition en ce moment. Ah oui. Le tournage aussi est passionnant. D'abord, le Parti communiste refuse qu'un Américain, Zanuck, filme la libération. Lui, il voulait. Ensuite, communistes et gauliques se surveillent et se surveille le tournage, chaque camp veut le beau rôle. Il faut aussi valoriser les survivants importants, comme Chaban Delmas, incarné par Delon. Seul grand résistant effacé du tableau, Georges Bidault, pour Algérie française, pour De Gaulle, ça passe pas. Celui qui passe à travers tout, c'est l'Allemand von Scholtitz. Dans le film, il affirme avoir désobéi en refusant de brûler Paris. Il a menti, il a juste pas eu le temps de le faire. Enfin, pourquoi Paris brûle-t-il, est-il en noir et blanc? Par refus des autorités de revoir les couleurs nazies. Le blanc-gris, oui, le vert-de-gris, non. Les autorisations, elles, sont données par un certain Maurice Papon. Là, s'il collabore, c'est pour le bon motif. C'est passionnant.
Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère.
Ça fait toujours du
bien. Ah oui, oui. Et à 22h40 sur la 2, Bernard Pivot.
Parfait.
Et Paris brûle-t-il, c'est donc à 21h sur Paris 1er.
C'est formidable.
Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, notre deuxième dose de Cave-Rivière. Oui. Voilà. Et puis alors, docteur Jimmy... Vous mangez de la brioche, oui. Jimmy Mohamed, docteur, vous nous parlez-vous de misophonie? De quoi s'agit-il?
Écoutez ça.
Ah, je déteste.
Si ce genre de bruit vous insupporte, c'est que vous êtes misophone.
Les bruits de bouche. Ah.
La version des bruits de bouche.
Ah oui.
C'est hyper fréquent. On va essayer de comprendre pourquoi.
Ça, c'est un bruit de bouche. C'est avec la bouche.
J'aurais situé ça ailleurs. Il est un peu bizarre, le docteur Jimmy Mohamed. Je me demande s'il n'a pas inversé. Enfin bon, on verra. Tous ces problèmes de canalisation.
Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, tout roule ?
De quoi tu te mêles ?
Des moules cuisinées à la marinière ou au beurre, ail et persil. En ce moment, elles sont à 3,59€ les 600 grammes au lieu de 4,99€, moins 28%.
3,59€ les moules ?
Lidl va déplacer les foules avec ses moules.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au dimanche 12 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
La famille Haussmann, un hommage à l'amour. L'amour de celles et ceux qui cultivent nos vignes en Pays d'Oc, terroir gorgé de soleil. L'amour du partage, des moments suspendus à refaire le monde ou apprécier la vie. By Haussmann, un IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah, Chardonnay, célébrons l'amour et l'amitié.
Haussmann, le plus aromatique des hommages.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
RTL.
Le deuxième œil de Philippe Cave-Rivière.
Notre deuxième dose. Philippe, nous recevions ce matin Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, place publique aux élections européennes.
Et avant de commencer, je tiens à dire bravo à Amandine d'avoir trouvé un socialiste vivant. Moi, je pensais que c'était comme les poilus, l'émission des chiffres et les lettres ou les fans de Georgette Plana. Définitivement disparu. Il est super, Raphaël, et pourtant la gauche mélenchoniste, eh ben, l'aime pas trop.
Non.
Elle pas se trop, reconnaît non. pas en lui parce qu'il. Alors déjà, on l'a vu ce matin, il est lavé, il est peigné, il est repassé, il a un costume impeccable. Ils peuvent pas se reconnaître.
Non.
Si encore il mettait une beigne à Léa de temps en temps, Quatennens aurait de la sympathie pour lui, mais sinon il peut pas. Alors Raphaël Glucksmann a fait renaître l'espoir à gauche. Il est très aimé par l'électorat féminin.
Ah oui.
C'est un peu Matt Pokora, quoi. Il y a un public très féminin. Il plaît énormément. On l'a vu ici à la rédaction. Quand il est arrivé, il se passe quelque chose. Comme avec Dujardin, Omar Sy. Moins avec Éric Zemmour ou Gérard Larcher.
Alors c'est vrai.
Moins. C'est des physiques moins immédiats. Alors, regardez d'ailleurs les tests de liste. Ça dit quelque chose. Jordan Bardella, il est beau gosse. C'est Thibaut Inchep de la droite dure. Raphaël Glucksmann, il est beau gosse. François-Xavier Bellamy, il est beau gosse. Il n'y a plus que des beaux gosses en politique maintenant. Si désormais il faut être jeune et beau pour réussir en politique, l'horizon se bouche un peu pour Mélenchon. Et pour Hollande, peut-être.
Raphaël Glucksmann qui a déclaré à propos de la visite d'État du président chinois, ce n'est pas en flattant les tyrans qu'on fait preuve de réalisme.
Et alors attention, flatter le tyran, ce n'est pas une métaphore coquine chère à Louis Baudin. Louis n'avait jamais... Philippe, putain, j'étais hier au Petit Bambou, je me suis fait flatter le tyran par les deux nouvelles. Oh, une merveille. Alors, on s'en fout. Le monsieur chinois et Manu, ils sont très amis, mais c'est des amis avec des intérêts. Macron, il est obligé pour la balance commerciale de faire un peu la michto, quoi. C'est une femme de footballeur, quoi. Les Airbus, c'est un peu c'est Louboutin, s'il veut qu'on lui achète. Ouais. Alors Raphaël, il a fleur de peau avec la Chine. même chez le boulanger, quand il entend deux baguettes, il rit. Il s'énerve. Il dit, non, on mange pas avec des baguettes ici. C'est pas, non, vous êtes la serpillière du régime autoritaire. Baguette tradition, c'est pas la tradition des Français. Vous êtes l'esclave du régime chinois. T'es un peu tendu en ce moment, Raphaël. Va dormir une heure.
Tout autre chose, après 52 ans d'existence, l'émission des chiffres et des lettres a disparu.
Là, ça c'est dans les EHPAD, c'est un drame. De nombreux résidents se sont débranchés volontairement. D'autres ont pris un train pour se faire piquer en Suisse. Oui. En gros, ça sent des héritages qui vont tomber pile avant les vacances d'été. Ça va être... En timing, c'est formidable. Alors moi, c'est vrai que moi, ça me rappelle les après-midi chez mes grands-parents, à regarder les chiffres et les lettres tout seul pendant que papy faisait secouer le dentier de mamie.
Oh non, alors...
Pardon, ben, c'est un hommage à mon papy et mamie qui ne sont plus. Alors, c'est la plus vieille émission avec le jour du Seigneur qui a été créée en 1949. Jésus a mis 1949 ans pour percer à la télé. Comme moi, Jésus c'est un tardif, quoi. Et bisous à papy et mamie.
Bah oui, on les embrasse.
Bah oui.
Merci beaucoup Philippe, on vous retrouve.
Mais non, ils sont morts, ils sont morts.
Non mais on les embrassait quand même.
Oui, ah, oui.
On pense à eux si vous voulez.
Voilà. Voilà.
Demain 7h55.
Ouais. Bon. À demain, Amandine.
Bonjour docteur Jimmy Boisbet, je suis désolé.
Amandine.
Vous revenez sur une étude qui révèle l'une des causes de la misophonie. Alors on va d'abord rappeler de quoi souffrent les personnes misophones.
Alors oui, c'est extrêmement simple, écoutez ce son.
Non mais ils sont pas bien vos sons. On peut faire nous les sons.
Oui, allez-y.
Par exemple, c'est ça.
Ah ouais, ça c'est les gens à table qui font...
Ces bruits de bouche là,
ah oui, enlève le bout.
C'est...
Exactement. Ah ça c'est énervant.
Bah, si vous trouvez que les bruits de bouche sont insupportables, que vous ressentez de la colère, voire de la haine lorsque quelqu'un mâche son chewing-gum en faisant trop de bruit, eh bien c'est que vous êtes très certainement misophone.
Bon, il y a d'autres bruits qui agacent les misophones ?
Oui, j'en ai d'autres dans mon tiroir.
Ah, mais c'est... Ça c'est les chips, c'est quoi aussi ?
Ça c'est le chewing-gum aussi, c'est la... Mais ça peut être aussi quelqu'un qui boit bruyamment, quelqu'un qui a une respiration trop bruyante, ou tout simplement ce genre de son. Le bruit du clavier d'ordinateur.
Ah oui, ça
me gêne moins.
Mais ça peut énerver le misophone.
Les personnes âgées, beaucoup font des bruits, beaucoup.
Parfois la sécu, ça m'a pris, oui, aussi.
Ah ouais.
La misophonie, en fait, c'est l'aversion extrêmement intense et irrationnelle envers des sons et des bruits très spécifiques.
Oui.
Les personnes qui en souffrent ressentent une véritable anxiété, de l'irritabilité, voire même du dégoût face à certains de ces sons.
Mais avec un véritable retentissement sur le plan social ?
Oui, on rigole, mais la personne misophone, elle va avoir une très forte envie de faire taire la personne qui fait du bruit. Sauf qu'au quotidien, elle va adopter des stratégies pour les éviter. Ah. Elle aura donc tendance à manger en mettant la télé très fort, à mettre des boules-quies, ou à même s'isoler pour manger en se décalant par rapport au reste de la famille lors des repas.
Bon, et c'est dû à quoi cette misophonie ?
Alors, c'est pas une maladie en soi, mais c'est un trouble dont on ne connaît pas encore toutes les causes. Toujours est-il que dans notre cerveau, on a une zone qui s'appelle le cortex insulaire inférieur. Dans cette zone du cerveau, eh bien, c'est ce qui vous permet d'orienter votre attention sur ce qui se passe autour de vous. Le problème, c'est qu'une personne misophone a une activation de cette zone beaucoup trop importante. En clair, un bruit de bouche déclenche un message d'alerte extrêmement intense au niveau du cerveau, comme s'il y avait un véritable danger. Ça vous fait rire.
Oui.
Je vous assure que c'est vraiment une surprise.
Bon, avec peut-être un peu de stress, non ?
Oui, c'est ce que révèlent les chercheurs américains. Les personnes misophones auraient une tendance à avoir connu un trouble traumatique dans leur vie, comme un syndrome de stress post-traumatique, une expérience sexuelle non désirée, une catastrophe naturelle ou encore un décès brutal dans l'entourage. Donc, il y a de l'anxiété et du stress chez les misophones.
D'où l'idée peut-être de proposer une prise en charge axée justement sur le stress.
Oui, ces résultats suggèrent que les processus liés au stress peuvent être des cibles thérapeutiques pour les personnes misophones. Car malheureusement, à ce stade, il n'existe aucun traitement médicamenteux. Mais on peut proposer, vous avez raison Amandine, des psychothérapies pour apprendre avec ces bruits de bouche qui, disons-le clairement, sont vraiment horribles.
Arrêtez.
C'est moche.
C'est un autre réfice, ça, mais...
Merci, docteur Jimmy Mohamed, Edna.
Bon, alors, plaisir, on va faire miam-miam maintenant, ça vous dérange pas.
Bonjour
Cyril Lignac. Ben oui, avec un bon émincé de veau aux légumes ce matin, et puis bien entendu une astuce.
Eh oui, alors d'habitude, l'escalope de veau, alors moi j'ai une passion, je pense comme vous Yves, c'est l'escalope de veau à la crème,
avec des champignons.
On met du porto dans la crème, on fait réduire cette petite crème, on cuit l'escalope de veau à côté et on met dessus toute cette sauce à la crème avec les champignons et on peut faire des petits légumes à côté. C'est ma passion et c'est mon plat préféré. Là, on va faire une recette plus légère pour l'été et on va les faire avec du citron. Vous savez, en Italie, on mange l'escalope
de veau. C'est très bon aussi,
À limon, au citron. Allez. Alors, vous allez voir, je vais vous donner une recette, c'est hyper simple.
Allons-y.
Donc là, déjà la base, c'est qu'on va chez le boucher, on prend des escalopes de veau et on les demande assez fines. Parce que quand elles sont fines, elles sont plus tendres. Et on les cuit juste un petit aller-retour. Et ensuite, vous allez les mettre dans la sauce. Et c'est comme ça qu'elles restent un petit peu rosées et avec une grande tendreté. Donc, on prend une poêle. Donc, on cuit les escalopes. Alors, soit on le fait entier, soit on taille des petites tranches d'escalopes et on fait comme un petit sauté.
D'accord.
Lamelle. Et on fait colorer. Ensuite, vous l'enlevez de la poêle assez rapidement. Et dans la même poêle, vous mettez du beurre. Vous allez cuire une échalote ou un oignon. Vous laissez cuire 2-3 bonnes minutes doucement. Ensuite, vous allez prendre le zeste d'un citron jaune plus le jus de citron. Vous pressez tout ça dans la poêle. Vous faites tourner vraiment la poêle pour que le jus fonde avec le beurre.
Oui.
Vous rajoutez des petits morceaux de beurre frais. Et là, vous laissez fondre le beurre avec les zestes de citron. Ensuite, vous remettez la viande dedans et vous allez voir avec le jus de la viande, ça va ce qu'on appelle ça glacer. Mmh. C'est-à-dire que le jus de citron et le beurre vont envelopper la viande et là, vous pouvez le servir directement comme ça. Alors à côté, on fait cuire des petites carottes, des champignons, des oignons nouveaux, on peut mettre des asperges. Vous faites comme une petite printanière de légumes et vous les glissez à l'intérieur de la sauce citron et vous le mangez comme ça. Et j'ajoute toujours des petites pistaches salées. Éclaté, que je dépose dessus pour apporter ce côté un peu torréfié.
Ça donne du peps. Voilà.
Et c'est très simple. On peut aussi mettre, d'habitude en Italie, quand ils font la sauce au citron, ils mettent de la sauge.
Oui.
Vous avez raison.
Vous pouvez mettre une feuille de sauge fraîche à l'intérieur et ça va parfumer en plus ce petit jus. Et ça nous change de la crème fraîche, même si, au grand Dieu, il n'y a que la crème qui est
bonne. Oh bah oui, ça, la crème fraîche, on adore.
Avec
bah,
le pain et...
Oui, bah oui, parce qu'après on sauce.
Ah oui. Bah oui.
Vous nous ouvrez des horizons, c'est bien agréable. Merci cher Cyril. Rendez-vous sur rtl.fr pour retrouver tous les détails de votre recette. On va passer à table, je pense, quand même aussi.
Oui, nous aussi.
Zara et Mademoiselle Jade. Bah oui, on n'a jamais dit non.
Bah oui.
À tout de suite.
7h-9h, RTL Matin.
Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Grand frais.
Bonjour, c'est le traiteur. Alors, pour votre cérémonie de demain, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses myrtilles bien parfumées, comme je les aime. Bon, en commençant à préparer les toasts maintenant, ça devrait le faire pour vos 300 invités. C'est bien ça, hein?
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à jeudi, les myrtilles sont à 80 centimes les 100 grammes. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 7,99€ le kilo. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste et horaires sur grandfrais.com.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Carrefour.
Quand vous me dites, les bons d'achat, je les cumule et après je me fais plaisir.
Eh bien, je vous précise qu'il y a 8 euros offerts en bons d'achat des 20 euros d'achat sur tous les produits du rayon hygiène et beauté, même en promotion. Ça devrait vous plaire. C'est merveilleux. Et c'est jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Or, parapharmacie et petit électroménager beauté offre limitée à 3 bons d'achat par foyer, modalité complète sur carrefour.fr.
7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Bah oui, à 8h51.
Oui.
Bonjour mademoiselle Jade.
On est bien, on est bien. Oui. Bonjour monsieur Calvi.
Bonjour.
Voilà, bonjour monsieur Gérard. Pas la crème, bonjour.
Ah, oui. Alors on commence comme chaque jour avec le rappel des titres présentés aujourd'hui par notre ami Xavier Demoulin. Bonjour Xavier.
Salut les filles.
Alors dites-nous Xavier, quels sont les titres du jour?
La question est plutôt quel est le titre du jour. Il n'y a en effet qu'une seule, information aujourd'hui, car la flamme olympique arrive demain à Marseille et tous les journalistes sont déjà sur le port de Marseille en train d'interviewer les pêcheurs de rascasse, les cagoles en string et les mouettes.
en attendant qu'elle arrive.
Un peu gênant pour ceux qui ne s'intéressent pas aux JO.
Pas d'inquiétude, si la flamme olympique vous indiffère, la flamme du plaisir vous attend ce soir sur M6, je l'allumerai avec ma voix à 19h45. Pétante, alors soyez au rendez-vous et faites-vous belle, mesdames.
Ce sera fait.
Mais oui.
Jusqu'au bout du monde, le nouveau film de Viggo Mortensen n'est pas seulement un western, c'est aussi un western féministe. On en parle avec un grand spécialiste du western. Bonjour Eddie Mitchell.
Oui. Oh non, non, non. Oh non. Hello, Miss Jade. Oui, un western féministe, ce n'est pas habituel.
Non.
Mais ce n'est pas le premier pour autant. En 1985, John Zob sortait en effet. Et pour quelques braquemars de plus, avec Jessica Boobs et Toby Latub, l'histoire d'une femme shérif rouquine tellement rapide qu'elle mettait les brigands au cachot avant qu'ils aient le temps de lui tirer une cartouche. Oui, un film. Film Me Too avant l'heure, qui
c'est
n'a
pas
d'ailleurs.
Possible.
Oui, il n'a pas su trouver son public, je vous le dis. Oui, c'est pas possible. C'est dommage.
Moyen enfin,
c'est,
tout, là.
C'est une perle.
Écoutez, voyez, je ne connaissais pas ce non. film.
Alors, je crois que Monsieur Calvi l'a dans sa collection de DVD. Je dis monsieur. Monsieur Calvi, je dis monsieur. En France, signalons également l'excellent La Cocotte Minute sifflera trois fois, sorti en 1978 avec Pierre Tornade, Paul Prébois et Grâce de Capitani.
Ah oui.
Un western familial moderne qui raconte l'attaque d'un magasin d'électroménager, déjoué par une employée de magasin qui déconcentre les malfrats en leur montrant ses loulous. Ah oui, un chef-d'œuvre de Max Porcinet qui réalisa trois ans plus tard le western inclusif Little Big Woman avec Mimi Mataille et l'année dernière Rio Travelo, entièrement tourné au Bois de Boulogne. Autant dire que Viggo Mortensen, eh bien, il a rien inventé le gars.
Salut Monsieur Eddy.
Alors, oui, je dis mademoiselle.
Voilà,
Miss Jade. Ah oui, Miss Jade. Que j'attends dans un western.
Voilà, oui, bien sûr. Sur le réseau social TikTok, certains influenceurs font la promotion de pinces qui permettent d'avoir de fausses fossettes. Et oui, monsieur.
Non.
Et si. Une tendance qui effraie les médecins. Bonjour, Olivier Véran.
Bonjour madame, vous tombez bien? En ce moment, c'est la chirurgie week. Je vous fais la bouche de canard à moins 30% et je vous rabote le nez à moitié prix. Faut en profiter, ça va pas durer.
Bah écoutez, non, merci. Nous savons que vous êtes reconverti en médecin esthétique dans une clinique privée, mais c'est à l'ancien ministre de la Santé que je m'adresse aujourd'hui concernant ces pinces à fossettes qui seraient dangereuses pour les jeunes.
C'est vrai, il y a un risque de nécrose et de cicatrices indélébiles.
Oh,
alors qu'avec une petite opération à prix cassé, je peux vous faire les fossettes Ariana Grande pour 1 500 $.
Ah, vous comptez en dollars maintenant?
Oui, mais je ne prends pas la carte vitale.
Ah.
Et j'accepte aussi les pétrodollars, les bitcoins et surtout pour le Brazilian butt lift.
Ah, le fameux rehaussement de postérieur.
C'est ça.
Cette opération aussi présente des dangers, n'est-ce pas?
Ah bah oui, mais si vous voulez avoir le popotin de Kim Kardashian, il faut accepter le risque d'embolie graisseuse. Allez, laissez-vous tenter, passez à la clinique, je vous ferai un prix.
Oui, on n'y manquera pas. Merci Olivier Véran. On vous sent plus décontracté que du temps du Covid. Hein.
Oh là là, vous avez raison. Je m'éclate dans mon nouveau job. Tenez, là, je vais poser des oreilles de Charles III à Stéphane Bern. C'est sympa, non?
Très bien. Évoquons maintenant les commémorations du 8 mai qui auront lieu demain avec un passionné d'histoire, justement. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour mademoiselle Jade. En effet, nous fêterons demain le 8 mai partout en France et notamment dans ma chère commune de Thiron-Gardais, au lieu de la résistance encore aujourd'hui.
Comment ça encore aujourd'hui?
Eh bien, mes administrés ont la rancune tenace. Comme par exemple Jean-Michel Fougneux, notre garagiste, qui refuse de vendre des balais d'essuie-glace Bosch.
Ah oui. Ça va loin.
Oui. Plus problématique encore, Raoul Foissard, qui gère les pompes funèbres du village, refuse de faire des mises en bière, car la bière lui rappelle trop la boisson allemande.
Mais enfin, comment expliquez-vous cette rancune presque 80 ans après la fin de la guerre?
Ah mais il y a méprise, ce n'est pas du tout lié à la guerre. Ils n'ont juste pas digéré le coup de genou de Schumacher dans le visage de Battiston lors du France-Allemagne de 1982 en demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Et depuis, Thiron-Gardais, c'est ni oubli, je vous le dis, ni oubli, ni pardon pour les chleux.
Et si nous prenions des nouvelles du Conseil constitutionnel qui sillonne la France, le Conscons, pour aller à la rencontre des Français.
Le Conscons explore la France.
Attendez.
Bonjour Alain Juppé.
Oui, attendez, arrêtez la musique. Oui. L'heure n'est pas à la balade bucolique dans notre beau pays.
Ah bon, mais attendez, que se passe-t-il? Oui. On vous avait laissé tout près de Lyon, je crois.
Oui, on voit que vous ne suivez pas tellement l'actualité.
Si.
Dès qu'on a appris la nouvelle, on a sauté dans un TGV à Pardieu et direction Fissa, la capitale.
Ah, je comprends, vous ne vouliez pas rater la visite d'État du président Xi Jinping.
Pas du tout, on en a rien à secouer de l'empereur de Chine. Non, si, on est remonté dardard. On a pris notre TGV, c'est suite à l'annonce de l'arrêt du jeu des chiffres et des lettres.
Ah,
on en parlait ce matin avec notre ami Philippe. Le plus vieux jeu télévisé de France, tout de même. Oui. Je peux vous dire que ça nous a fait un choc. Alors, on est tous remontés faire le siège de France Télévisions pour les faire revenir sur leurs décisions. Mm-hmm. On a quand même de l'influence au Conscons. Hein.
Oui,
en plus,
même.
On comptait en profiter pour demander à France Télé le retour de Bernard Pivot dans l'apostrophe, mais on est arrivé trop tard.
Eh oui, la disparition de Bernard Pivot nous a tous peinés, mais nous ignorions que vous étiez aussi attaché que ça au jeu des chiffres et des lettres.
Oui. Enfin, vous plaisantez. On n'arrête pas un épisode au Conscons. On a même la boîte de jeu.
Ah.
Depuis un an, ils nous l'ont mis le samedi et le dimanche. Alors, en semaine, après la sieste, on regarde les anciennes saisons du temps d'Armand Jameau, Christine Fabrega, Patrice Lafont, Max Favalelli, Bertrand Renard, Jo Frachon.
Ah oui, bah inutile de nous faire toute la liste de vos idoles non plus.
Fabius, c'est imbattable au compte est bon. Ah. Vous savez, la série de chiffres qu'il faut multiplier, additionner, soustraire entre eux pour arriver au nombre voulu.
Oui.
Faut dire que quand il était ministre, il n'avait pas son pareil pour bidouiller ses bilans en disant « le compte est bon ». C'est ça, évidemment. Moi, je me débrouille pas mal pour les lettres. Mm-hmm. Tiens, je peux même vous confier un secret bien gardé concernant le mot le plus long.
Easy. Oui. On est tout ouïe à la journée.
Vous savez que pendant longtemps, le mot le plus long de la langue française, c'était anticonstitutionnellement.
Mm-hmm.
26 lettres au compteur. Impossible de faire mieux.
Bien sûr.
Mais un jour, on avait eu un repas amélioré au Conscons avec apéro et digestif. Mézard et Pinot, qui étaient un peu bourrés au Jacoulot, ont décidé qu'ils allaient battre le record d'anticonstitutionnellement. Mm-hmm. J'ai moi-même parié que s'ils y arrivaient, je danserais une polka avec Jacqueline Gourault.
Oh non.
Et alors